arrivons à 2 Corinthiens chapitre 5, on voit donc on progresse à travers cette épître en abordant les thèmes successifs. Souvenons-nous, Paul décrit dans cette épître son ministère, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, en vue de quoi il fait ce travail. Et nous arrivons donc à 2 Corinthiens 5, le sujet c'est de rendre des comptes à Dieu. On va lire les 11 premiers versets. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de son corps physique, cette tente. Cette tente, le corps physique de l'apôtre Paul était assez souvent malade, peut-être même infirme par certains côtés, il avait beaucoup souffert. Il exprime le désir de quitter son corps, qui lui causait quelques misères, qui était très limitée, et d'être auprès du Seigneur. Et donc il vit une tente c'est quelque chose de temporaire. On fait séjour sous tente, mais les gens ne vivent pas sous tente toute l'année normalement. On vit dans une maison. Et il dit, notre corps est temporaire, on sert le Seigneur dans ce corps, mais il s'use et il se fatigue, et il me tarde d'aller dans un édifice que Dieu a préparé encore nouveau dans le ciel et vivre auprès de Dieu. Et donc il dit, j'aimerais mieux quitter ce corps et être auprès du Seigneur. Mais dans le verset 11, ou plutôt verset 10, il nous parle d'un tribunal de Christ. Donc, quand nous voulons servir le Seigneur, et pendant que nous le servons, nous ne devons pas uniquement regarder ce que nous faisons aujourd'hui, mais nous devons toujours lever les yeux et regarder cet événement qui aura lieu quand Jésus-Christ nous évaluera sur l'ensemble de notre parcours chrétien. Depuis le moment où nous nous sommes convertis jusqu'au moment où nous décédons, nous vivons la vie chrétienne. Le Seigneur va évaluer notre manière de vivre pour lui un jour. On va rendre des comptes à Dieu. Et tous les chrétiens vont rendre des comptes, pas uniquement les pasteurs. Les pasteurs, ceux qui ont enseigné, la Bible dit, ils seront jugés plus sévèrement. Dieu va être plus sévère envers certains qu'envers d'autres. Si nous avons connu beaucoup la Bible, on aura plus de responsabilités si on aura connu très peu. Le brigand sur la croix qui s'est converti dans les dernières heures de sa vie, bon, il n'y a pas grand-chose à évaluer. Mais pour quelqu'un qui, par exemple comme moi, qui est né dans une famille chrétienne, obéissante à Dieu, qui a connu la Bible très tôt, Dieu va être plus sévère parce qu'il a donné plus. Il a dit à celui à qui on donne plus, on demande plus. En tous les cas, l'évaluation sera parfaite, elle sera juste. Tous les chrétiens seront d'accord avec l'évaluation de Jésus. Et on va voir un peu cette évaluation. Regardons déjà en Romains chapitre 14, on va regarder un peu tous les textes qui parlent de cette évaluation et de ce tribunal. Romains 14, versets 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Là, c'est une leçon que l'apôtre Paul donne par rapport à ce fameux tribunal. Et d'abord, on va tous rendre des comptes. Il dit, c'est Jésus-Christ qui seul va évaluer chacun de ses enfants. Ce n'est donc pas à vous, ni à moi, de juger les gens. Vous voyez un chrétien qui marche d'une certaine manière. Oh, moi je sais pourquoi il fait ça, parce qu'il est rempli d'orgueil. Je le sens qu'il est rempli d'orgueil. Je suspecte qu'il est rempli d'orgueil. Je le soupçonne d'être rempli de jalousie. Alors que le frère ne nous a jamais dit, je suis rempli de jalousie. C'est nous qui avons décidé ça. Ah, moi, je sais ce qui le provoque, c'est ceci et cela. Le Seigneur dit, attends, qu'est-ce que tu en sais, toi? Quelles sont les motivations de ce frère ou de cette sœur? Tu n'as pas à le juger. Toi, on va te juger. Il dit, moi, je vais juger le frère, et moi, je sais exactement ce qu'il y a dans son cœur. Je sais tout, mais toi, tu ne sais pas tout. Pourquoi tu le juges? Il dit, si tu veux avoir une relation, ta relation avec ton frère, c'est de ne rien faire qui provoque la chute de ce frère. Mais ce n'est pas de le juger, c'est pas ton rôle, c'est le mien. Jésus le dit tout net, hein. Donc, l'évaluation faite par Jésus-Christ. Oui.
C'est dans le même. C'est l'archange ici, l'archange qui dit que.
Jude, Jude, le verset 9, c'est juste avant l'Apocalypse. Oui, en quelque sorte. L'archange Michel, c'est un passage qui est un peu difficile à comprendre parce qu'on n'a aucun autre passage qui lui ressemble. Hein. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Oui, oui, c'est la même idée. L'archange Michel, qui en savait plus sur le diable que nous, hein, qui en savait plus, mais il n'a pas à prendre position, il n'a pas à porter un jugement. Les anges qui sont fidèles à Dieu ne portent aucun jugement sur les anges déchus, c'est Dieu qui porte le jugement. C'est Dieu qui administre les blâmes, c'est Dieu qui sait tout, qui est parfait, qui est juste, qui est saint. C'est lui seul qui peut porter une appréciation et une évaluation sur quiconque. Tout genou fléchira devant nous, devant Dieu. Donc, tous les rachetés, tous les chrétiens, on va fléchir le genou devant Jésus-Christ, et il va nous évaluer, et tous les inconvertis vont fléchir le genou devant Jésus-Christ, et il va les évaluer aussi. Mais nous, chrétiens, on va être dans un tribunal que la Bible appelle le tribunal de Christ. Donc, Romains 14, on a vu cela, et on va donc rendre des comptes. Maintenant, regardons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, qui est peut-être la description la plus complète du tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3 et le verset. Attendez. Oui, c'est ça. Verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul parle de lui-même et de ses collègues qui ont fondé l'église de Corinthe. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit, vous de l'église, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il dit, par rapport à l'église de Corinthe, c'est moi qui ai fondé cette église, c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile. Je vous ai annoncé Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. C'est sur ce fondement que l'œuvre à Corinthe s'est faite. Paul bien dit que je ne suis plus là, dans le quotidien, pour construire l'église de Corinthe, je suis ailleurs, mais il y a d'autres gens qui s'occupent, il y a d'autres responsables qui s'occupent de votre église de Corinthe, et ils sont en train de bâtir votre église sur le fondement de Jésus-Christ. Et il dit, mais en quelque sorte que les pasteurs qui sont à l'œuvre actuelle dans cette église de Corinthe, qu'ils prennent garde à la manière dont ils bâtissent sur le fondement. Ça veut dire qu'un pasteur doit faire attention à la manière dont il conduit l'église pour qu'elle reste centrée sur Jésus-Christ, bien sûr. Mais maintenant, il y a une deuxième application ici. Chaque chrétien est basé sur le fondement de Jésus-Christ par la nouvelle naissance, et chaque chrétien bâtit sur ce fondement sa vie chrétienne. Un peu comme si chaque jour était une autre brique ou une fenêtre, et chaque jour on construit cet édifice, la vie chrétienne. Et regardons ce qu'il dit. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Deux possibilités, ou peut-être un mélange des deux. Certains jours et à certaines époques de notre vie, nous marchons dans l'obéissance, nous marchons dans l'humilité, nos motivations sont correctes, nous annonçons la parole, nous vivons une vie d'obéissance. Et donc, on emploie des matériaux nobles. Quand le Seigneur va évaluer le travail de ce jour-là, il va dire, je l'approuve, c'est du bon travail. Un autre jour, on est rempli d'orgueil, de jalousie, d'amertume, on fait des choses pour Dieu, on témoigne, on donne des traités, on chante à la chorale, on fait des choses, disons, dans le cadre de notre activité chrétienne, mais nos motivations ne sont pas bonnes. On veut témoigner pour amener plus de gens que le voisin, on veut montrer qu'on est le meilleur chrétien de l'église, on veut prouver qu'un autre n'est pas aussi bon que nous. Bon. Le Seigneur voit les boutons de nos motivations et il dit, le travail que tu as fait ce jour-là, eh bien, n'est pas recevable. C'est un travail que je n'approuve pas, la motivation n'était pas bonne. Et il dit, ça c'est du bois, du foin et du chaume. Le bois et le foin et le chaume, on peut quand même construire quelque chose de visible avec du bois, du foin et du chaume. On peut construire quelque chose même d'assez grand. Mais si on met le feu, tout ça va disparaître. Et c'est comme si on n'avait rien fait. On a perdu du temps. Donc, ce tribunal de Christ, l'apôtre Paul le compare à un feu où le Seigneur vient évaluer par le feu la nature de notre travail et la nature de nos motivations. Et donc, ce qui lui a plu demeure et mérite une récompense. Donc, le Seigneur va distribuer des récompenses au tribunal de Christ. Il y a des chrétiens qui recevront beaucoup de récompenses. Il y en a d'autres qui recevront moins de récompenses. Et apparemment, il peut y en avoir quelques-uns qui ne recevront aucune récompense. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce feu ? Est-ce que c'est le feu de l'enfer ? Ce n'est pas le feu de l'enfer. Ce feu-là est un feu qui est déclenché par Christ au tribunal de Christ. Et au tribunal de Christ, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que les enfants de Dieu. Et le tribunal est une évaluation de la manière dont on a vécu notre vie chrétienne. Et donc le Seigneur examine nos motivations, la qualité de notre travail. Et par le feu, on va voir ce qui reste, et ce qui est récompensé et ce qui est consumé. Donc le feu de Jésus-Christ consume nos mauvaises œuvres. Alors on dit, zut, il consume mes mauvaises œuvres, mais je vais tout perdre. Mais il y a un bon côté là-dessus. Parce qu'est-ce que vous aimeriez avoir ces mauvaises œuvres empilées dans le coin du ciel à côté de chez vous? Est-ce que ce n'est pas mieux que le Seigneur les brûle, que ça disparaisse et que ne reste que ce qui lui a plu? Et ce qui sera éternel, et ce qui méritera des récompenses. Non, c'est une œuvre de grâce aussi. que ses mauvaises œuvres, que ses œuvres qui n'ont pas été agréables, dans sa miséricorde, le Seigneur les consume pour ne laisser que ce qui lui a plu pour l'éternité. Et encore, il nous fait la grâce de nous récompenser. Bon, souvenons-nous quand même que tout le vrai travail qui aura l'approbation de Jésus-Christ, c'est un travail que Dieu lui-même a fait à travers nous. Le travail qui va être brûlé, qui va brûler, c'est le travail que nous avons voulu faire nous-mêmes avec nos propres forces pour Jésus-Christ, mais qui n'a pas été fait selon Dieu et pas dans une dépendance de Dieu. Alors maintenant regardons en Corinthiens chapitre 4, donc le chapitre suivant, et il continue sur ce même thème. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dans ce chapitre 4, on a un peu la preuve écrite de ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu va regarder. Alors, l'apôtre Paul, bien sûr, il répond à des gens qui l'accusaient, qui le soupçonnaient de mauvaise motivation. Il dit, mais si vous voulez me juger, vous pouvez me juger, je ne peux pas vous en empêcher, mais je ne me sens pas concerné par votre jugement. Ils ne disent pas ça par orgueil ou par arrogance. Il leur dit en substance, vous n'êtes pas compétent pour porter un jugement sur moi. Vous n'êtes pas compétent. Il dit, j'examine ma conscience, j'examine mon cœur, j'examine mes motivations. Je les examine vraiment sincèrement. Et il dit, le Saint-Esprit qui habite en moi, ma conscience, dans mon souvenir, je n'ai pas un sujet de conviction de péché. Je ne me sens coupable de rien. Il dit, dans mon âme et conscience, je ne ressens pas une culpabilité de péché. Si je savais que j'étais coupable dans certains péchés, je vous en demanderais pardon. Mais je ne vois pas de péché que j'ai pu commettre contre vous et contre le Seigneur. Il dit, ça c'est le témoignage de ma conscience. Mais il dit, mais maintenant, ça ne veut pas dire que je suis justifié. Je ne dis pas que je suis blanc comme la neige. Je ne dis pas que je suis innocent. Parce que moi-même, je ne peux pas m'évaluer parfaitement et complètement. Il y en a un qui va m'évaluer, c'est Jésus-Christ. Et ce même Jésus va vous évaluer aussi, Corinthiens. Et pourquoi verset 5, donc il dit ne jugez de rien avant le temps. Il dit à ces chrétiens de Corinthe, évitez d'évaluer les gens de manière autoritaire, évitez de faire un tribunal et de porter des jugements sur les gens. Pourquoi vous n'êtes pas compétent pour évaluer les autres? Il dit parce que vous et moi, il y a deux choses qu'on ignore, que Jésus connaît. D'abord, Jésus connaît et mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça peut être? Des choses qu'on ne voit pas qui sont là. Bon, ça peut être nos motivations. Peut-être je suis bourré d'égoïsme, d'ambition et de jalousie. Mais j'arrive à le cacher. Personne ne le voit. Mais c'est caché dans les ténèbres. Quand je passerai devant l'évaluation de Jésus, tous mes péchés secrets, toutes mes mauvaises motivations vont être projetées, le Seigneur va les mettre en lumière et va montrer, en tout cas à moi, qu'il savait quelles étaient mes motivations et ça va influer sur son évaluation. Alors que personne ne les a vus, mais lui les a vus. Autre chose qui est dans les ténèbres, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, nous ne voyons pas la manière dont Satan attaque notre ministère. Voilà, vous avez un frère qui va dans un pays, qui prêche l'évangile, 300 personnes qui viennent au Seigneur, et dans 10 ans, il a une belle église de 400 personnes, avec plusieurs pasteurs qui travaillent avec lui, et on dit quel merveilleux missionnaire, quel pasteur doué, il est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Dans un autre pays, vous avez un autre frère qui travaille de toutes ses forces, au bout de 20 ans, il a réuni 15 ou 20 personnes. Et on dit, ben, celui-là, il ne vaut rien. Regardez, celui-là, c'est un bon serviteur de Dieu, celui-là, il dépouille les églises, il est frustre, il les trompe, parce qu'il prend leur soutien, il vide leur argent, et il offre paresseux parce qu'il n'a pratiquement rien au bout de 20 ans, il n'a pratiquement personne dans son église. Qu'est-ce que c'est comme pasteur? Et on va regarder les résultats visibles. Le Seigneur, lui, il voit des choses qui sont dans les ténèbres. Il voit par exemple sur ce frère-là que si ce frère avait été dans le pays où est l'autre frère, il aurait peut-être avoir une église deux fois plus grande que le premier. Mais il y a une telle opposition satanique sur le territoire où il travaillait, qui n'existait pas dans là où l'autre travaillait, que le même effort, que les mêmes prières, que les mêmes motivations pures n'ont produit que 15 ou 20% des résultats de l'autre frère. Mais nous, on ne peut pas voir ça. Mais Dieu le voit. Vous souvenez-vous quand Daniel, il a prié et que finalement, 3 semaines après, l'ange Gabriel revient. 3 semaines. Daniel avait le temps de dire, mais je croyais que j'étais un homme de Dieu, je croyais que le Seigneur m'écoutait, je croyais que j'étais agréable à Dieu, je prie et Dieu ne me répond pas. Et l'ange qui dit, j'étais retenu par les principautés, par la puissance occulte dans le ciel. Et j'ai mis 3 semaines pour arriver avec la réponse. Nous, on ne connaît pratiquement rien sur l'opposition satanique à l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pratiquement rien de cette bataille qui a lieu dans les lieux célestes. L'apôtre Paul nous en parle un peu pour prier. Les principautés, les puissances, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, il y a une bataille dans les lieux célestes. Et par la prière, nous revêtons de l'armure de Dieu. Nous luttons dans les lieux célestes contre les puissances occultes. Pas la puissance de Dieu, mais on ne connaît que très peu à ce sujet. Jésus, il sait parfaitement tout ce qui se passe. Un autre frère, il a moins de talent que le premier frère. Mais il prie autant. Mais comme il a moins de dons, ou moins de on ne sait quoi, moins d'équipement, mais il est aussi fidèle, Dieu peut lui donner la même récompense. Parce que la fidélité a été la même, même si les dons étaient moins nombreux et le résultat était moins visible. Donc il dit, Jésus seul sait tout ce qui se passe qui est caché à notre vue. Ça va influer sur l'évaluation et c'est pour ça qu'on n'est pas compétent pour évaluer. Et la deuxième chose que connaît Jésus, les desseins des cœurs, c'est ses fameuses motivations. Jésus les connaît toutes, nous ne les connaissons pas. Et il dit, Jésus seul possède ces éléments-là. C'est lui seul qui peut faire l'évaluation. C'est lui seul qui distribue les récompenses. Nous ne sommes pas compétents pour faire le tribunal. Alors vous dites, alors si on n'est pas compétent, mais comment est-ce qu'on peut exercer une discipline d'église? Mais on exerce une discipline d'église, non pas sur un oui-dire, ou il semble que, ou j'ai le sentiment que. Comment ça se passe? Je raconte un petit exemple. On avait un frère dans notre église qui était fiancé, tout le monde se réjouissait de son mariage, et j'apprends qu'il vit dans le même logement avec sa fiancée. Oh, je vais le voir, que se passe-t-il? Oui, bon, pour faire des économies, un même logement. Mais elle a sa chambre et j'ai la mienne. Je dis, combien de vos voisins pensent que vous gardez votre chambre séparée? Ah, mais ça, les voisins pensent ce qu'ils veulent. Je dis, mais c'est pas un bon témoignage, etc. Bon. Non, mais il ne se passera rien. Quelque temps après, j'apprends qu'il se passe des choses, hein. Je réhabite. Alors que se passe-t-il? Ben oui, c'est vrai que quelquefois on a. Mais écoute, ça va pas, et puis tout, et puis si ça continue, on devra exercer une discipline d'église. On donne quelques semaines pour régler la situation. Quelques semaines passent, le recontact, toujours pas réglé. On est obligé d'appliquer une discipline d'église. On est obligé de le dire aux membres et de tirer la liste des membres. Pour cette raison-là. Ben oui, vous faites ce que vous avez à faire. Mais si on est allé vers les membres en disant « Ce frère, vous savez, quand il entre, il tient la tête un peu comme ça, il a une expression qui ne me revient pas, je crois qu'il se passe des choses, on va l'éliminer des membres. » Ça, c'est pas honnête. Les choses ne sont pas avérées. Donc, les églises ont besoin de prendre des décisions disciplinaires quand les choses sont connues, clairement établies. Une église n'exerce pas une discipline sur toi, je crois que tu as des pensées impures, je le vois sur ton visage. Ah, je connais ton visage et je vois quand tu as un regard de convoitise. Tu vas passer en discipline. Non. Ça, c'est intérieur, ça, c'est personnel. Quand c'est des choses avérées, clairement établies, là, il faut bien sûr agir. Mais là, il parle de choses qui sont cachées dans les ténèbres, des choses que nous ne pouvons pas connaître. Et pour les choses que nous ne pouvons pas connaître, nous devons penser le meilleur, innocent, jusqu'à preuve du contraire, et d'accorder à nos frères et sœurs le bénéfice du doute, et non pas les soupçonner. Traitons les autres comme on voudrait qu'ils nous traitent. Est-ce que vous aimez, chaque fois que vous passez la porte de l'église ou de votre foyer, avoir des regards soupçonneux qui sont posés sur vous? Et vous voyez dans la tête des gens, vous voyez encore fait un mauvais coup, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux imaginer. C'est horrible, là. Et donc, l'Église doit prendre des positions par rapport à des péchés avoués, ouverts, clairement établis, mais pour ce qui est d'évaluer les motivations des choses dans les ténèbres et toutes ces choses qu'on ne peut pas connaître, nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Et nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus. Donc, le tribunal de Christ. Sautons à 2 Pierre chapitre 1. Maintenant, on va voir un peu ce que le Seigneur attend à voir en nous. Ce sera intéressant de savoir ce qu'il aimerait voir en nous, ce qu'il va évaluer. Dans les versets 3 et suivants, 2 Pierre 1, 3 et suivants. L'apôtre nous dit ici, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, le Seigneur va nous regarder et il va dire « J'ai bien observé ta vie et j'ai vu si tu fuis la convoitise pour être plus semblable à Dieu ou si tu allais vers la convoitise et tu as été embarqué par cette convoitise. J'ai regardé la direction de ta vie. » Parfois, vous avez des gens qui est fou, la vie n'est pas vraiment en règle, mais on voit qu'ils vont dans la bonne direction, on les encourage. Puis vous avez un autre qui a vécu bien pour le Seigneur pendant longtemps, mais vous le voyez qui s'en va vers la convoitise. Donc on regarde les frères et sœurs non seulement par là où ils sont aujourd'hui, mais à la direction dans laquelle ils vont. C'est comme si vous avez un enfant qui n'est vraiment pas sage, mais vous voyez qu'il fait des efforts pour le devenir davantage. On est plus coulant avec ses fautes parce qu'on sent qu'il veut mieux faire. Mais un enfant qui a été obéissant et qui commence vraiment à se dévergonder, on est plus sévère parce qu'il nous a habitués à mieux. Et il est en train d'aller dans une mauvaise direction. Et quel est donc, comment pouvons-nous arriver à une plus grande ressemblance à Christ? Il dit verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Cette foi, c'est la foi qui nous a sauvés. C'est la vie, la nouvelle naissance. Et il dit, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, patience, à la science, à la tempérance, la patience, à la piété, à l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Donc, vous savez, en école maternelle, ils ont des cahiers de notes, mais ils ne notent pas sur 20, comme au lycée. Ils ont notion, non acquise, en voie d'acquisition ou acquise. Peut compter de 1 à 10. Notion acquise. Peut compter de 100 à 200. Notion en voie d'acquisition. Peut multiplier par deux chiffres notion non acquise. Hein? Et là, le Seigneur, il regarde aussi. Sauvé, acquis. Il va vers la vertu. En voie d'acquisition. Il étudie la Bible. En voie d'acquisition. Il est patient. Notion non acquise. Mais il va voir est-ce qu'il y a une progression. Le Seigneur va évaluer selon notre manière de grandir dans notre caractère. Ça sera partie du tribunal du Christ. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Une autre chose que le Seigneur va regarder quand il va nous évaluer, dans le verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il va regarder l'usage de notre temps. Si vous êtes un patron et que vous avez des ouvriers, mais vous allez regarder comment ils passent leur temps, puisque vous les payez. Si vous avez l'impression qu'ils prennent des pauses d'une demi-heure toutes les 10 minutes, vous allez les faire entrer dans votre bureau et vous allez passer en savon, vous allez dire, écoutez, je vais vous renvoyer si ça continue. Je vous paye 35 heures, je veux 35 heures. Le Seigneur dit, je te donne 168 heures par semaine, je regarde quand même comment tu passes ces heures. Alors, ce n'est pas un esclavage, mais tu dis que tu aimes le Seigneur, mais j'aimerais voir dans ton emploi du temps la preuve que tu aimes le Seigneur. Je n'invente rien, là. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Il dit par rapport au vase, le vase de ta vie intérieure. Avec quoi est remplie ta vie intérieure? Il dit, je vous ai donné un ordre, commandement, soyez continuellement en train de vous laisser remplir du Saint-Esprit. Ça veut dire, laisse ton cœur se remplir des choses qui viennent de Dieu, et non pas des choses qui viennent du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder un film de temps à autre, lire un livre intéressant, un bon roman, faire un voyage, se détendre, au contraire. Mais si notre vie n'est que un roman, promenade, plaisir personnel, etc., sans jamais un moment pour le Seigneur, sans aucun désir de la Bible, sans jamais un instant pour prier, je suis tellement pris à regarder mes DVD, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la Bible une seule fois cette semaine. Le Seigneur dit, excuse-moi un peu, mais je vois que dans ton vase, tu l'as rempli de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Je ne reproche pas d'avoir vécu dans un péché grossier. Mais je vois bien que tu n'as pas passé du temps, mais aucun moment, à te laisser remplir de l'Esprit Saint. Un critère d'évaluation que le Seigneur a. Alors, il nous donne quand même les critères. Vous savez, quand un professeur dit, à la fin de la semaine, vous aurez un examen qui portera sur ce chapitre, ou cette question, attendez-vous à répondre à trois questions par cœur, les voici, et à vous exprimer sur cet autre domaine. C'est quand même gentil. On sait exactement dans quel domaine il faut travailler. Et quand l'examen vient, si on l'a bien écouté, ça va se mettre à la porte. J'ai vu chez tout ce qu'il m'a dit, l'examen porte sur le sujet dans le malade, c'est bon, c'est... Et Dieu, il vient vous évaluer sur ce sujet-là, ce sujet-ci, celle-là, etc. Donc, on va dire qu'on est pas prévenu. Et quand ça viendra, Si on dit, oh, mais c'est une surprise. Le Seigneur m'a dit, mais je savais pourtant dit que c'est là-dessus que porterait l'évaluation. Regardons pour terminer Hébreux chapitre 19, verset 19, pardon, Hébreux 10, verset 19 à 31. Vous allez voir, c'est un passage très, très, très intéressant et qui pose beaucoup de problèmes généralement pour la compréhension. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vous pose une simple question avant d'aller plus loin. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'adresse à des rachetés ou à des inconvertis? À les racheter, on est tous d'accord. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible » que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je vous repose la question. Depuis le verset jusqu'à maintenant, avez-vous l'impression qu'il écrit à des rachetés ou à des inconvertis?
Rachetés.
Ok. Très souvent, on le pose, on dit, oulalalalalalala, ça, c'est pas sûr que c'est à des rachetés. Je crois effectivement qu'il écrit à des rachetés. Mais le langage est tellement fort qu'on a du mal à croire qu'il écrit à des chrétiens, on a l'impression qu'il écrit à des inconvertis. Pourquoi? Parce que verset 26, il semble dire « Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Et on a l'impression que là, c'est l'enfer. Un feu qui dévore les rebelles. Mais, d'un autre côté, on a l'impression qu'il écrit à des rachetés, parce que il dit, verset 29, de quel pire châtiment. Et dans l'épître aux Hébreux, le châtiment s'adresse toujours aux enfants de Dieu. Dans le chapitre 12, il en fait un point d'honneur de dire, le châtiment, c'est pour les enfants de Dieu. C'est comme des enfants que Dieu châtie, comme un père châtie. Châtiment, c'est pour les enfants de Dieu. Ensuite, verset 29, le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Il dit, cette personne a été sanctifiée par le sang de l'Alliance. Ça, c'est un chrétien. Il dit, le Seigneur jugera son peuple. Son peuple, c'est les enfants de Dieu. Donc, c'est le peuple de Dieu. Donc, il y a trois indices qui indiquent que c'est les enfants de Dieu, et un ou deux indices qui sembleraient indiquer qu'il s'agit d'inconvertis. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée, mais jusqu'au verset 25, personne n'a de problème à croire que c'est des rachetés. C'est à partir du verset 26 que l'on se pose de sérieuses questions. Alors, verset 26. Quand nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si vous êtes racheté par la grâce de Dieu et vous êtes sauvé par le sang de Jésus-Christ et que vous péchez, est-ce qu'il y a
un autre sacrifice que vous pouvez plaider. Si on s'éloigne de Jésus-Christ et qu'on ne vit pas pour Jésus-Christ, est-ce qu'il y a un autre sauveur que l'on peut évoquer? Non. Je me suis éloigné du Seigneur, mais j'ai trouvé un autre sauveur, et lui, pardon les autres péchés. Donc, entre les péchés que Jésus a payés et les péchés que cet autre sauveur a payés, c'est bon. Non, ça n'existe pas. Il y a un seul sauveur. Si on s'éloigne et qu'on vit dans la désobéissance à notre seul sauveur, ça ne peut pas bien aller pour nous à l'évaluation. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles? Alors le mot, c'est mais ce mot, les rebelles. On pense immédiatement que le mot les rebelles, c'est des gens rebelles. Des gens rebelles. Le feu de Dieu qui dévore des gens rebelles, des inconvertis. Mais est-ce que le feu dévore les gens inconvertis? Est-ce que le feu de l'enfer dévore les inconvertis? Non. Le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Le feu de l'enfer ne dévore personne. Les gens souffrent dans les flammes, mais ils ne sont pas dévorés par les flammes. Mais nous avons vu ce matin déjà que le feu de Dieu dévore certaines choses. On l'a vu en Corinthiens chapitre 3. C'était quoi? Le bois, le foin et le chaume, nos œuvres qui n'ont pas été acceptables auprès du Seigneur, sont dévorées par le feu de Dieu. Et alors, le mot les rebelles, comme le mot rebelle, d'abord c'est un adjectif. Ça peut être des gens rebelles, effectivement. Ça peut être aussi des actes de rébellion. Les choses qui ont montré une rébellion de notre part, nos désobéissances, doivent être dévoré par le Seigneur. Et le mot rebelle ne s'applique pas forcément à des gens, ça peut aussi être des choses, il n'est pas précisé d'un côté ou de l'autre. Alors, le mot châtiment, et regardons verset 29, est-ce que le péché, on parle du triple péché du verset 29, est-ce que le péché peut être commis par un chrétien? Regardez bien. Quelqu'un qui foule aux pieds le Fils de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut fouler aux pieds le Fils de Dieu?
Oui,
moi je crois qu'il peut le faire. Mais comment peut-on fouler aux pieds le Fils de Dieu? Un chrétien, est-ce qu'il va dire Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour me sauver de mes péchés, Jésus-Christ n'est pas le sauveur, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu? S'il dit ça, c'est qu'il n'est pas sauvé. Mais Jésus est mort pour quoi? Pour quelle chose? Pour quelle raison?
Pour nos péchés.
Pour nos péchés. Pour le purifier de nos péchés. Imaginons que je vis pendant des mois et même des années en accumulant des péchés, en remplissant ma vie de péchés. Et je ne viens jamais vers le Seigneur pour lui demander de me les laver, de me les expier par son sang, n'en demande jamais le pardon, je ne les confesse pas. Ça revient à dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais je me demande pourquoi il est mort. Bien sûr, le chrétien va dire, mais il est mort pour mes péchés. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que je n'avais pas confessé, que j'en ai accumulé beaucoup, mais je ne veux pas laisser mon style de vie parce que ça me plaît, j'ai du plaisir, mais je sais que ça ne plaît pas à Dieu, je sais que j'ai accumulé beaucoup de péchés, mais j'ai pas envie de les délaisser. Attends. Tu dis que Jésus-Christ est ton sauveur, qu'il est mort pour tes péchés, et tu vis comme s'il n'était pas mort, tu ne les confesses pas, tes péchés ont cloué Christ sur la croix, et tu n'as même pas le désir de demander pardon et d'en être purifié. Est-ce que ce n'est pas fouler aux pieds le Fils de Dieu? Regardons, il dit, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, si nous confessons nos péchés. Mais Christ a versé ce sang précieux et on n'en fait pas usage, on n'y a pas recours et on laisse s'accumuler des péchés alors que le sang est là pour nous les enlever, les pardonner, les faire disparaître. Vous entrez dans chez quelqu'un que ça ressemble à la décharge municipale. Il y a des détritus partout à la hauteur de 50 cm sur le sol, c'est une véritable porcherie. Et vous dites, mais vous n'avez pas de balai, mais c'est malheureux. Vous n'avez pas de pelle, vous n'avez pas de serpillère, vous n'avez pas de balai brosse. Mais si, mais j'en ai moi. J'ai, regardez, c'est dans cette pièce à côté. Un balai tout neuf. Hein. Mais pourquoi tu vis dans 50 cm de détritus sur tout, tout ton appartement? Oh mais, moi, ça va, ça ne me gêne pas. Mais t'es emballé, tu pourrais te débarrasser. Mais ça ne m'intéresse pas de m'en débarrasser. On va dire, mais t'es fou. Tu as les moyens dont tu ne te sers pas. Tu sais que tu les as et tu ne t'en sers pas alors que tu en as désespérément besoin. C'est vraiment un outrage. C'est outrager. C'est tenir pour profane le sang de l'Alliance. C'est-à-dire, ça revient à dire, je ne sais pas très bien pourquoi Jésus a versé son sang. je ne réclame pas ce besoin. Parce qu'on ne met pas les choses en règle. Et pour terminer,
merci.
Oui.
On peut dire aussi que cette personne, elle a accepté le Seigneur Jésus de la tête, mais pas du cœur.
Mais justement, on peut l'avoir reçu du cœur, c'est-à-dire être réellement converti, mais ne pas entretenir sa vie spirituelle. La différence entre quelqu'un qui l'accepte de la tête et quelqu'un qui l'accepte réellement, c'est que celui qui dit qu'il a accepté Jésus mais uniquement de la tête, il dit, mais oui, mais moi, vous savez, Jésus le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème, hein, moi je crois ça, d'ailleurs comme tout un chacun, hein, vous savez, tout le monde connaît Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est moi, il est mort pour racheter l'homme de ses péchés, puis voilà, moi je crois ça, comme tout le monde. Ça, c'est vraiment accepter Jésus de la tête. Mais il ne dit pas, Jésus est mon sauveur. Mais vous avez des chrétiens qui disent, je sais que Jésus est mon sauveur, je sais qu'il est mort pour mes péchés, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je ne marche pas avec Dieu en ce moment, je suis assez loin de Dieu, je sais qu'il me demandera des comptes, mais je n'ai pas vraiment envie de mettre en règle avec Dieu. Je n'ai pas envie de m'engager avec lui en ce moment. J'ai des choses qui m'intéressent plus. Mais je reviendrai, hein, c'est sûr que tôt ou tard je vais revenir. Mais ouais, il y a un problème, n'est-ce pas? Il sait qu'il est dans le péché, il sait que ce qu'il fait ne plaît pas à Dieu. Et en tous les cas, et puis qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pourquoi l'esprit nous a-t-il été donné? Pour nous aider à vivre la vie chrétienne. On a besoin de son aide. Ce chrétien dit, moi je n'ai pas besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je ne veux pas de son aide. Je ne veux pas qu'il me convainque. Je suis pas bien, mais je ne veux pas changer. Pour l'instant, je préfère rester là où je suis. Il a reçu l'Esprit Saint en lui et il refuse de lui laisser libre cours. C'est un outrage à l'Esprit de la grâce qui peut lui apporter son aide. Il n'en veut pas de cette aide. Alors, que va-t-il arriver? Le Seigneur dit, le Seigneur jugera son peuple. C'est son peuple que Jésus va juger au tribunal de Christ. Et il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le chrétien qui vit dans une désobéissance flagrante, quand le tribunal du Christ viendra, ce sera terrible. Ce qui nous choque un peu dans ces passages, c'est que le tribunal de Christ est décrit dans des termes tellement puissant, tellement violent, on se dit, ça ne peut pas être des chrétiens. Nous, on imagine le tribunal du Christ, oui, mon enfant, bon, c'est vrai, ça n'a pas toujours été vraiment super, mais bon, tu es sauvé, ma foi, bah, tu es bienvenu dans la maison du Père, Jésus est ton sauveur, bon, c'est un mauvais quart d'heure à passer, mais tu vois, voilà, tout finit par bien s'arranger. Nous n'avons aucune idée de la sévérité du tribunal du Christ sur notre désobéissance. On n'en a aucune idée. Il donne un exemple. Les enfants d'Israël, c'est des gens que Dieu a dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, n'est-ce pas? Mais il y en a qui désobéissaient à Dieu, mort. Attends, mais je fais partie du peuple de Dieu, je suis israélite, quand même, il pourrait me laisser un petit peu de, hein, un peu de privilège, parce que quand même, il nous a choisis, c'est pas pour nous mettre à mort. Et Dieu dit, attends, je vous ai choisi, je vous ai donné plus de lumière que les autres peuples, je vous tiens plus responsable que les autres peuples, et si vous êtes dans la désobéissance flagrante, je ne vois pas pourquoi je vous laisserai en vie. Terminé. Et il en a mis à mort plus d'un. Tout au long de l'histoire d'Israël. Et donc, quand cette évaluation vient,
voyons le respect du Seigneur. Ne pensons pas, parce que je suis sauvé, ben voilà, il va me dire, tu aurais pu mieux faire. Allez, je t'enlève une couronne, va maintenant au paradis, qu'on n'en parle plus. Non, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être beaucoup plus solennel que ce qu'on a l'habitude de réfléchir. D'ailleurs, on ne parle pratiquement jamais du tribunal du Christ. Et pourtant, l'apôtre Paul en parle beaucoup. Jésus, il en parle énormément. Toujours dans une parabole, un roi s'en va, et puis revient, il fait rendre des comptes à ses serviteurs, n'est-ce pas ? Et un serviteur qui a bien travaillé, t'as bien fait, un serviteur qui a mal travaillé, méchant serviteur, ouf, c'est chaud, c'est, les évaluations, c'est sérieux. Et nous terminons avec 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Voilà. Après le verset 10, qu'on va commencer avec le verset 10, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Après avoir parlé du tribunal du Christ, il dit, moi je crains mon évaluateur. Je crains Jésus-Christ. Pas terrorisé. Ne tremble pas. Mais dit, je prends très au sérieux cette évaluation faite par Jésus-Christ de ma vie. Et il dit, quand je vis, quand j'agis, quand je voyage, quand j'annonce la parole, quand j'évangélise, quand j'écris des épîtres, je pense toujours au moment où je vais rendre des comptes à Dieu. Et je m'efforce de lui être agréable à tout point de vue. Il est bon pour nous, avant de poser un acte, avant de dire une parole, avant de prendre une décision, de nous poser la question, comment vais-je justifier la décision que je suis sur le point de prendre auprès de Jésus-Christ, à ce tribunal, parce qu'il va l'évaluer. Que vais-je dire? Et si on dit, je ne vois pas comment je vais le justifier, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'une évaluation aura lieu. Et c'est dans sa grâce et sa miséricorde que Dieu va le faire. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ces instants et nous te prions de bénir la suite de cette journée. Glorifie-toi en nous et à travers nous. Merci pour ce temps précieux mis à part par Jésus-Christ. Amen.